Cette consécration était l'aboutissement, le couronnement de 15 siècles de bénédiction mariale sur notre pays, qui avait tissé entre Notre-Dame et la France une intimité qui appelait une réponse. La Vierge Marie méritait que le pays lui fût donné solennellement, afin que le royaume de France soit officiellement, en réalité et pour toujours, le royaume de Marie. Cette consécration fut suivie d'une extraordinaire prospérité pour le royaume. Mais cet acte surnaturel d'un de nos rois ne devait être qu'un départ. La dévotion mariale ne s'arrête en effet jamais à Notre-Dame. La Vierge Marie est toute tournée vers Jésus. La consécration à Notre-Dame devait donc conduire à la consécration du roi et de la France au Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est Louis XIV qui, de toute éternité, avait été choisi par la Providence divine pour accomplir ce projet. Notre Seigneur voulait se servir du rayonnement extraordinaire que la consécration à sa mère avait donné au royaume de France pour répandre dans le monde entier la dévotion à son cœur sacré, afin de réactiver sur toute la terre le feu de la charité qui était en train de s'éteindre dangereusement. Vous le savez, ce sont les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, auxquelles, vous le savez aussi, Louis XIV ne donna pas suite. Et on peut dire que son refus, ce fut le refus de la croix. Louis XIII avait dû affronter de nombreuses oppositions pour consacrer la France à Marie. Ça n'avait pas été si simple. À un moment même, tout fut presque compromis, mais il l'a fait. Même s'il a pu faire des erreurs de gouvernement, c'était un roi pieux. Il est mort comme un saint entre les bras de saint Vincent de Paul. Pour consacrer la France au Sacré-Cœur, Louis XIV aurait dû affronter une levée de boucliers des jansénistes. Il lui aurait aussi fallu avoir l'humilité de renouer avec le Saint-Siège, parce que le Sacré-Cœur demandait une fête liturgique en son honneur. Et pour Louis XIV, faire une telle demande au pape, eh bien, cela signifiait renoncer en fait à son gallicanisme. Et Louis XIV n'était pas pieux. Il vivait dans l'impureté. Notre Seigneur ne régnait pas dans son cœur. Comment l'aurait-il compris qu'il fallait qu'il règne en France et dans le monde? Alors Louis XIV a préféré jouir pour lui-même, en orgueilleux, en égoïste, du prestige que la Providence ne lui avait donné que pour étendre le règne du Sacré-Cœur. Vous voyez, quand on refuse la grâce, quand on la laisse passer parce qu'il faudrait renoncer à trop de choses, quand on anesthésie sa conscience et qu'on laisse passer le temps ainsi dans cet état, eh bien les conséquences peuvent être dramatiques, surtout lorsqu'on a les plus hautes responsabilités, mais pour chacun de nous aussi. Notre Seigneur est patient pourtant avec les hommes. Il a attendu un siècle. Mais pendant qu'il attendait, les forces de l'enfer n'attendaient pas. Et elles préparaient la révolution qui a détruit notre pays de fond en comble et qui continue aujourd'hui ses ravages. Et il y a le parallèle en ce moment dans l'Église avec le refus des successeurs de Pierre d'obéir aux demandes de Notre-Dame de Fatima. C'est notre Seigneur lui-même qui a fait ce parallèle en août 1931 à sœur Lucie. Fais savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France en retardant l'exécution de ma demande, qu'ils le suivront dans le même malheur. Le refus des rois de France d'obéir au cœur de Jésus a causé la destruction de l'ordre temporel chrétien et la fin de la monarchie dans le sang. Le refus des successeurs de Pierre d'accéder aux demandes du cœur immaculé de Marie a causé la révolution de Vatican II, l'apostasie générale, et se terminera peut-être aussi dans le sang, si la vision du troisième secret de Fatima est authentique, et il le semble bien, même si l'interprétation qui en a été faite par l'Église conciliaire est frauduleuse. Il y a bien sûr une différence essentielle entre la cité temporelle et l'Église, c'est que l'Église ne disparaîtra jamais. Mais dans la fin des temps, l'Église pourra être réduite à des dimensions domestiques, disait le cardinal Pie, à de petits fortins, disait le père Calmel. Comprenons bien que la situation dans laquelle nous sommes maintenant arrivés dans l'Église et dans notre pays, et en ce moment les difficultés d'une tradition qui s'est embourgeoisée, mondanisée, eh bien tout cela est la conséquence de nos péchés. Cependant, Dieu est toujours Dieu, il est toujours un Père. Il tient tous les événements dans sa main. Le bon Dieu pourrait retourner très bien, il en a la puissance, retourner immédiatement la situation. Et l'Écriture nous dit qu'il abrégera les épreuves des derniers temps à cause de ses élus, pour les sauver, parce qu'il est un Père. Et si dans son amour de Père, Dieu permet la situation actuelle, comme il a permis les épreuves du peuple élu dans l'Ancien Testament, c'est uniquement pour ramener les hommes à lui. Parce que c'est dans l'épreuve, souvent, que l'on se retourne vers Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent dans l'épreuve. Parce qu'à ce moment-là, Dieu reste, à un certain degré d'épreuve, Dieu reste la seule solution. Et on se jette en Dieu, dans son amour. Alors aujourd'hui, les hommes n'ont sans doute pas encore eu assez d'épreuves, puisqu'ils ne se retournent toujours pas vers Dieu. Faudra-t-il que notre Seigneur punisse plus fortement cette humanité pour qu'elle revienne à lui ? Nous ne connaissons pas l'avenir. En attendant, pour nous, eh bien, ce qui compte, c'est pour nous. Pour nous, il nous faut rester, chacun d'entre nous, fidèles et persévérer. Et il faut bien comprendre que la persévérance n'est pas quelque chose d'automatique. De toute façon, c'est une grâce, la grâce de la persévérance finale. Et aujourd'hui, il est important d'être réaliste sur la gravité de la situation dans notre pays et dans l'Église. Donc même de s'en informer, de ne pas fermer les yeux. Pourquoi ? Non pas pour nous décourager, pour nous désespérer, mais pour nous convaincre que dans une telle situation, si notre vie chrétienne est tiède, nous ne persévérerons pas. Nous ne résisterons pas aux tentations d'un monde plus habile que jamais pour faire tomber dans le péché. Et la crise dans l'Église finira par nous faire perdre la foi, parce que la tiédeur de notre vie ne sera pas suffisante pour nous faire affronter les difficultés que cause aujourd'hui la fidélité à la tradition, la fidélité au combat de la foi de Mgr Lefebvre, et nous finirons par abandonner. Alors quel est le moyen de sortir de la tiédeur ? Eh bien, c'est la dévotion au cœur de Jésus. Nous sommes tièdes parce que nous manquons d'amour. Nous concevons trop notre vie chrétienne comme un ensemble de pratiques, une morale à suivre, très bien, mais tout cela reste trop extérieur. En apportant au monde la dévotion à son cœur sacré, notre Seigneur, qui veut que nous accomplissions ces pratiques, qui veut que nous gardions ces commandements, notre Seigneur veut que nous fassions tout cela par amour pour lui, que nous pensions souvent à lui dans nos journées pour lui offrir telle action, tel sacrifice, en réparation pour les ingratitudes des hommes envers son amour. C'est à cette vraie vie chrétienne que doit nous conduire notre dévotion envers la Sainte Vierge. Et c'est à la portée de tout le monde. Si tant de malheurs se sont accumulés sur notre pays pendant tant de siècles et maintenant dans l'Église, c'est parce qu'après l'acte magnifique de Louis XIII, les hommes se sont arrêtés et ils n'ont pas voulu aller de Notre-Dame au Sacré-Cœur. Ça s'est arrêté. Eh bien, nous, si nous voulons persévérer dans la fidélité, eh bien, il nous faut aller au bout du chemin. Il faut continuer la route. C'est pourquoi Mgr de Ségur écrivait que les vrais chrétiens des derniers temps de l'Église, ce seront les fidèles du cœur de Jésus. Alors, en priant notre chapelet, et en chantant nos cantiques à Notre-Dame pendant cette procession. Demandons à la Très Sainte Vierge de nous donner un amour profond du cœur de Jésus, pour que toute notre vie soit une vie d'amour avec notre Seigneur. Et c'est cela aujourd'hui qui réjouira vraiment le cœur de notre Mère, parce qu'elle ne cherche qu'à s'effacer devant lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.